Au commencement, il n'y avait que le néant. Puis, le Big Bang créa l'univers. Mais après plusieurs milliards d'années, de mystérieuses ondes troublent l'ordre. Au fin fond de la galaxie...
Non, juste un peu à droite. Oui, voilà, là.
Le chaos prend sa source dans Big Bang le samedi.
Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de Big Bang
Station.
Nous sommes sur les...
88 de la bande FM.
En Ile-de-France et en simultané sur Android, Periscope, Facebook, Twitter, Internet, on tape notre chaîne, notre page, notre compte, notre site Big Bang
Station.
L'émission est rediffusée le dimanche à 16h sur Precious Radio, à 20h sur les Muses de Paris, à 21h sur Radio MS, le mardi à 20h sur NG Radio, sur Fréquence Zik le lundi à 22h, sur Radio Balagne, sur Radio Vintage le jeudi à 16h et partout et tout ailleurs sur Big Bang
Station.fr.
Big Bang Station, c'est un thème d'actualité auquel les chroniqueurs, news, culture, histoire, record, cinéma devront coller le plus possible. Aujourd'hui, nous consacrerons cette émission à la Journée mondiale contre la faim. Petit Manu reviendra sur l'histoire de cette journée. Bonjour.
Bonjour, mon cher Didier. Bonjour à vous tous, le tout team de plus en plus nombreux.
Tout team.
Tout team, je veux dire toutes les personnes. Et effectivement, bah, c'est quand même un dossier, c'est quand même délicat, ceux qui peuvent pas manger. En tous les cas, je vous donnerai des bonnes explications, ce qu'il faut savoir.
Kevin nous proposera son quiz sur les chansons contre la faim. Nous avons dans nos studios Thérèse pour un live toxique. Toxique, c'est le nom du titre.
Exactement, bonjour tout le monde.
Salut.
Salut.
Enchanté, bienvenue.
Welcome. Merci.
Voilà. Manu qui est sous le charme.
Ah complètement, mais je pense que je suis pas le seul, mais les collègues aussi, hein. Je n'ose peut-être pas le dire.
PA, tu nous parleras
oui.
D'un marathon contre la faim.
Exactement, courir contre la faim, c'est possible. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps dans un département de la France. Voilà, donc je vais tout vous dire dans quelques instants.
Quant à moi, j'essaierai de vous faire deviner des news incroyables, mais...
Vrai.
All
right.
Et elle est restée dans notre studio depuis deux semaines. Yeah. Qu'est-ce qu'elle fait là?
Ça va, François?
Elle a campé ici, tu vois, elle a dormi ici.
Je peux pas quitter.
Elle a installé un lit de camp.
C'est sentimental. Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Elle a installé un lit de camp, en fait. En fait, elle est restée en casino depuis une semaine. Il n'y a pas de fête au casino, donc c'est pas qu'elle arrivait, quoi.
Et l'émission est réalisée par Didier.
Tu sais tellement faire tellement de choses, mon cher Didier. Même la technique.
Renan reviendra sur les causes et conséquences de la fin dans le monde.
Et oui, notamment après la publication d'un rapport de l'ONU, plus particulièrement de la FAO en septembre dernier.
Tu nous parleras aussi de cinéma.
Et oui, pour la chronique cinéma, nous parlerons du film documentaire Les Moissons du Futur de Marie-Monique Robin, une journaliste française, et d'un petit film bonus, si on a le temps.
Et on va commencer par les...
Zapolites.
C'est parti.
Les questions que personne ne se pose.
Qu'avait cet homme de particulier dans sa veine?
Des excréments.
Quelque chose de sexuel?
Non. Qui vous les expose?
De la merde.
Non.
Décidément.
De l'urine.
Non.
Allez, on commence en France, le député Jean Lassalle, tout le monde le connaît.
Ah,
oui, bien sûr.
Il est grand taille aussi, très grand taille.
On m'a dit que c'était ton cousin, petit.
Ah
ami.
Non, nos chemins.
Oula,
mais il a mis à les vaches.
Bah, cousin éloigné alors. Hein.
Voilà, peut-être qu'il a un petit accent, pas mal son accent.
Eh ben, il est parti voir un match de rugby auquel participaient ses fils. Et où avait-il garé sa voiture?
Ah,
à l'entrée du stade.
Bah, normalement.
Non, sur une place handicapée.
Non.
Dans le stade.
Dans la ville.
Non, à un endroit où faut pas la garer parce que ça bloque toute la circulation.
Un rond-point.
Bah, feu
alors
rouge.
Ça bloque la circulation, pas des voitures.
Des joueurs.
Un feu rouge.
Des piétons.
Pas des joueurs, pas des piétons, pas un feu rouge.
Où les bus peuvent passer.
Pas les bus,
les
c'est
pompiers.
Plus gros.
Les pompiers.
Non, pas les pompiers,
les
c'est plus gros.
L'armée.
Que les voitures.
Les camions.
Un camion.
Non,
les bus.
Ça va plus vite.
Les motos.
Les
avions.
Les pompiers. Non. Pompiers, pas
ça roule.
Les trains.
Oui,
ah bon,
il avait garé sa voiture sur un passage à niveau.
Non, là, je vais le faire.
Il ne devait pas avoir que de l'eau, à mon avis, ce jour-là.
Il ne devait pas avoir les idées claires, lui. Hein.
Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi un passage à niveau?
Alors, il a donc coupé le trafic des trains entre Pau et Bedou. Et il a dit, oui, mais avant, je me garais là, je ne savais pas. Donc,
il ne s'est pas compliqué la tête, entre mon dieu.
Non, bah... Non mais...
Et non mais il a pas vu la barrière.
Je vais avec je me suis garé, je ne savais pas. Tu le fais très très bien.
Eh ben j'imagine Didier c'est les voitures derrière qui n'étaient même pas de content.
Quoi que quand j'étais à Paris j'ai trouvé une belle place mais c'était sous l'Arc de Triomphe, moi je savais pas qu'on pouvait pas se garer là.
Ah bah ouais.
Et où t'as pas dit
c'est une place réservée en fait.
Du soldat inconnu, tu vas te garer sur le tombeau du soldat inconnu, toi.
Bah ouais. Inconnu, donc moi je sais pas. Bah non, mais je rigole, Françoise.
Il y a un petit peu.
C'est de l'humour,
Françoise. Là, tu m'as fait peur, là.
Françoise, c'est de l'humour, attention.
Ah ouais, là,
second degré.
Premier degré, bonjour.
C'est ce que j'allais dire, quoi.
Allez, la deuxième infolite. Pour les journées du patrimoine, qu'auriez-vous pu visiter en Vendée?
Le Puy du Fou, puisqu'il est tellement
célèbre. Les Sables d'Olonne.
Boire du vin là-bas, le pays du vin.
Les Sables d'Olonne.
La maison de Philippe de Villiers.
C'est dans un endroit fermé.
Un château?
Non, c'est plus petit.
Un donjon?
Une tour?
Un puits?
Le château de Joséphine Baker?
Non, c'est pas un château, c'est pas de la Belle Pierre.
C'est historique ou c'est pas historique?
Non, c'est pas historique.
Peut-être une rivière?
Non, c'est un endroit où normalement les gens, quand ils y vont, ils le disent pas trop, quoi.
Aux toilettes?
Au sex shop.
C'est pas un sex shop.
Une boîte de striptease.
Ouais. Alors, c'est un club libertin.
Ah,
un club échangiste. Oh.
Les bains gourmands, c'était visitable et la visite était théâtralisée.
Mais non.
Ah, il y a du théâtre?
Ah bon?
Est-ce qu'elle était gourmande?
Alors, non, mais je l'ai visité comme ça pour la chronique et on m'a dit, monsieur Mesgar, comme d'habitude.
C'est pas vrai.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
T'as passé un bon moment, Didier, dis-nous tout.
J'ai été comme ça pour la première fois.
Par curiosité, ça t'a intrigué, quoi.
Tu t'es fait faire la fessée?
Elle me fait peur, cette émission, maintenant. Je crois que je vais m'en aller.
Ça, c'est intriguant.
T'as croisé du monde?
T'as croisé du menu ou pas?
Ah bah non, moi je connais pas. Et dis-moi comment c'était là-bas, à l'intérieur, Didier. T'étais pas trop intrigué?
Non, c'était assez sombre.
Ah donc ah ouais, ah,
apparemment
normal,
assez sombre.
Non, j'ai pas compris, il y avait des je crois des interphones mais assez bas où tu parlais comme ça.
Il y avait des micros avec.
Ouais.
Oh là là, c'était vraiment insolite.
Parce que c'était
ouais, aïe, aïe.
Allez, ouais, on finit.
Faire un tour au donjon. Ouais. Voilà.
À Manchester, petit Manu, c'est où?
En Angleterre. Il y a même une équipe de football là-bas.
Manchester United, ouais.
Oui, oui, faut reconnaître. Oh là là.
Alors, que porte cet homme comme masque pour se protéger du coronavirus?
Comme masque.
Je dirais le masque de...
Alors peut-être...
De Dark Vador.
Je vais dire au hasard Superman, on sait jamais...
Non.
Bon bah non, peut-être que vous l'avez déguisé.
C'est pas un masque en tissu.
C'est un masque de quelqu'un de connu ou pas?
C'est un masque, tu sais, des hackers?
Un masque pour se déguiser, ouais, hein, il fallait masquer en plastique.
Non, non, c'est pas en tissu, pas en plastique.
De Scream?
Non.
Ce qu'il faut pour les chirurgiens quand ils vont opérer peut-être.
Non. En fait, ils s'en servent comme masque, mais c'est pas un masque.
Ah. Un slip?
Non, c'est pas du tissu. C'est vivant.
Ah, c'est vivant.
Ah bon?
Il se l'enroule comme ça.
Un poulpe? Un poulpe?
Ah, un chat,
une queue de,
la queue d'un
chien. Un poulpe, pas un chat.
Un serpent?
Oui, bravo PA, c'est un serpent.
Oh, t'as dit au hasard ou pif?
Ouais, au hasard, ouais.
Comme quoi, l'intuition dans ces...
Et d'ailleurs, l'autorité de transport de Manchester a rappelé qu'un serpent ne peut pas servir de masque.
Bah, évidemment.
Ah ouais, oui, non, mais
c'est
non.
Vaut mieux qu'il soit dans le
milieu. Ça me paraît logique.
Le mec, il met un serpent.
Ça va être lui qui va le dominer, après.
J'espère que c'est un serpent, pas qu'on...
C'était peut-être pour aller visiter une certaine maison en Vendée, après, tu sais pas.
Ah, oui, remarque. Et pour fouetter Françoise.
Je lui dis serpent, et elle me regarde d'un air intrigué, intéressé, c'est pour ça.
Ah, c'est... Pourquoi tu l'appelles Python?
Je l'appelle Python.
Anaconda, non, bon, tu l'appelles...
Ouais. Elle m'a appelé Donjon tout à l'heure.
Non, attends, non, mais t'es pas un Python, toi.
Mais je te jure, cette émission, elle me fait de plus en plus peur.
Didier, t'es un mamba noir, toi.
Depuis que Françoise est revenue, cette émission est bizarre. Il y a un truc bizarre, je sais pas.
Non, ce que je voulais dire, en Chine, les serpents, c'est quand même un animal sacré. Il y a le tigre, le serpent.
Et le chien.
Et le chien, la fidélité, c'est important d'en tenir compte. Eh oui.
Très bien.
Et on les mange en Chine, les serpents, ou pas?
Non, malheureusement, on mange les chiens et les chats.
Voilà. C'est des animaux sacrés, en tous les cas, dans la religion chinoise. Faut en tenir compte.
Ça. Bien. Et petit Manu va nous expliquer l'histoire de la journée mondiale.
Contre la faim, je vais vous donner une très bonne explication. Ce qu'il faut savoir.
Chaque semaine, il crypte l'actualité.
Un président américain, monsieur Barack Obama. Donald Trump. Il arrive. Milton. David Bouillet. Joe Cocker. Justin Timberlake. Lady Dada. Sakina. Oui, Kendrick.
Retrouvez petit Manu et son grand dossier journalistique.
J'ai mangé tous les ravotas. Non.
Tous les quoi?
Les amis, après tous les insolites qu'on vient d'entendre, pour venir à la réalité des choses un peu plus...
Bah c'est la réalité, frère.
Je sais, mais sort de l'ordinaire.
Monsieur, il y a des gens qui se mettent un serpent pour se protéger du coronavirus.
Non, mais je veux dire, ça sort de l'ordinaire, c'est original, mais il faut venir à des choses plus rationnel. Alors, la journée mondiale de l'alimentation commémore la FAO.
On commémore.
Eh oui, le 16 octobre 1945. Et ce sont chaque année pas moins de 150 pays pour le monde qui participent à cette manifestation. Et je veux vous rappeler, est-ce que vous savez ce que c'est la FAO ?
La FAO ?
C'est la FAO,
l'agence
question.
Des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation dans le monde.
Fédération de Fédération l'alimentation et de
Notre Roland, mais il est balèze, il a
Mais pourquoi tu l'as c'est Renan, c'est pas
Renan, il a pas tort. Effectivement, c'est une mais j'ai appris ça en préparant ce dossier, mais je ne savais pas. C'est une organisation dépendante des Nations Unies, mais particulièrement chaque année, c'est question de l'alimentation et de nourriture. Bravo Renan.
FAO, c'est quoi exactement?
Oh bah c'est une organisation comme
mais le F, c'est le F de quoi?
Française, je suis française, j'imagine. Voilà, je continue. De l'alimentation. Alors, en anglais, World Food Day. Malgré les efforts de la communication internationale pour lutter contre ce fléau, ce chiffre augmente depuis plus de deux ans. En raison du conflit, malheureusement, au Yémen qui crée des Syriennes au Soudan du Sud et des phénomènes climatiques extrêmes, sécheresse en Afrique australe et au Sahel notamment. La France, mobilisée pour lutter contre la faim, agit notamment à travers l'aide alimentaire programmée du. Alors, c'est un symbole. M$EN 2018. D'ici 2030.
M$2018.
Enfin, voilà, c'est un symbole.
Quoi ?
Françoise est pliée sous la table.
Qu'est-ce qu'elle a, Françoise ?
$34.
Françoise, c'est un malaise.
Bah là, mais
t'es appelle le 15.
Moi, c'est hyper, c'est pas grave. D'ici 2030, les Nations Unies se sont données pour objectif d'éliminer la faim et faire en sorte que tout le monde, en particulier pour les plus vulnérables, aient accès à une alimentation saine, nutritive et suffisante tout au long de l'année. Alors, à votre avis, une personne sur 9 dans le monde souffre de combien pour manger, à votre avis?
Combien ils souffrent pour manger?
Ils souffrent de crudités. Il y a combien de personnes?
Non, mais attends, je vais te faire venir à cabine rouge là pour la prononciation.
Ah non, mais réponds
non,
à la question.
Non, mais attends, surtout plein orthophoniste là.
Non, une personne de 9, ouais. Je vais vous dire.
190 millions de personnes.
Ah, il y en a moins. C'est
690 millions moins une.
Non. Je vais vous dire, soit 821 millions d'hôtes de la population continent asiatique souffrent contre la faim. À votre avis,
Manu,
quoi?
Je suis pas Françoise, mais ton prochain métier, ça sera chroniqueur écho. Oh,
non,
on fait sur CNews. T'es sur CNews.
Ah non, mais il faut le buzzer.
On va continuer un dernier
coup.
À votre avis, 45 de décès d'enfants de moins de 5 ans, donc il y a 1,1 million, sont dus à la malnutrition. Et à votre avis, combien il y a combien de millions en classe qui souffrent de faim, de
Manu,
nourriture.
J'ai rien compris. 1,1 million, non, c'est quoi?
Mais c'est quoi les 1,1 million?
Eh ben juste,
ça se dit pas en plus.
31 millions dû à la malnutrition.
Renan, passe-moi ta chronique.
La question, c'était combien il y a de millions d'enfants qui souffrent de la faim dans le monde?
Alors, je rectifie, les enfants. Une personne sur 9 dans le monde souffre de faim chronique, soit 821 millions.
Ah, bah voilà.
Et 45% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à la malnutrition.
Voilà, d'accord, bah on comprend mieux, là, comme ça.
Vous avez compris ça ou pas, quand il l'a dit?
Mais pas du tout, pas du tout.
Pas du tout.
Il m'a piqué le début de ma chronique, putain.
Alors, j'ai pas compris, mais je veux pas me s'entraîner. Alors, dans les pays du développement, donc soit 66 millions d'élèves ont faim, et en France, la faim touche 2/3
allez,
des personnes.
Allez, bonne soirée, salut.
Non, la France touche 2/3 des personnes en situation précaire.
Merci, petit Manu.
Faut pas être suisse, hein.
Et c'est l'heure du quiz de Kevin.
Maintenant, c'est ce qui se passe dans le monde.
Et c'est parti pour le quiz.
Non, quiz. Attends. Comme le cheese.
On cherche à comprendre encore la règle du jeu. Je vais me porter sur un truc.
Mais
allez, on commence le quiz de Kevin qui nous propose 4 titres en rapport avec la faim dans le monde. Un indice.
Évidemment.
Ce sont pour la plupart des collectifs de chanteurs et chanteuses. Le premier, il est très facile. Je pense que vous allez le trouver en...
Ouais.
J'allais dire en
une seconde.
Eh ben, en zéro seconde.
Voilà, là, Jean-Jacques Goldman.
Coluche. Eh ben voilà,
les Restos du Cœur, Coluche.
Les Enfoirés, donc la chanson des restos.
Tout à fait, c'est ce que je pensais.
Écrite par Jean-Jacques Goldman.
Voilà. Et même Michel Drucker a chanté aussi. Hein.
Alors c'est un collectif qui existe toujours aujourd'hui, c'est bien sûr les Restos du Cœur. Cette association a été créée quand?
En 85, par Coluche. Voilà. C'était Coluche qui avait lancé en 85 l'appel sur Europe 1.
Voilà.
Bravo. Avec cette phrase, j'aimerais lancer un appel pour créer une cantine.
Exactement.
Comment s'appelait vraiment Coluche?
Michel Colucci.
Bravo.
Et même il faisait une grande émission européen qu'on m'a dit Top et PA.
C'est grâce, alors juste petite parenthèse aussi, c'est aussi grâce à Philippe Gildas qui était le patron des programmes, enfin le patron d'Europe 1 qui a permis aussi la création des Restos du Cœur.
Effectivement.
Alors PA c'était en 85, mais quelle date exactement?
21 septembre 85.
Voilà. 20, alors 26.
26 parce que septembre 85, ouais.
Mais bravo. Voilà. Bravo, 26 septembre 85 sur Europe 1.
Ouais. Et même au début, Didier il faisait ça, il pensait faire ça pendant quelques mois, mais s'il savait quelques années plus tard.
Et en plus, il y avait aussi cette histoire de chèque qu'il avait remis à l'abbé Pierre parce qu'il y avait un surplus d'argent, je crois, par rapport au Resto du Cœur, qu'il a remis à l'abbé Pierre parce qu'il voulait pas les remettre aux politiques, parce qu'il n'avait pas confiance, il a remis à l'abbé Pierre.
Voilà.
Non, et donc, en fait, pour avoir de l'argent, il a demandé à Jean-Jacques Goldman d'écrire une chanson. Ouais. C'est la Kenée, la chanson des Restos du Cœur. Et elle a été enregistrée au studio Gang de Paris en janvier 86.
Tout à fait.
Bon, vous êtes prêts pour la deuxième?
Yes. Ah, on est prêts, on se prépare.
USA for Africa.
Pour l'Éthiopie, ouais.
Tout à fait.
C'est sorti la même année que la création des Restos du Cœur en 85. C'était pour l'Éthiopie parce qu'il y avait la famine en Éthiopie. Ouais. Et c'est Michael Jackson avec Quincy Jones qui était son producteur. À l'époque, il y a eu cette idée de créer un collectif. Donc il y avait
Lionel
Richie, il y avait qui c'est qu'il y avait d'autres? Prince, Prince c'était son ennemi.
Ah ouais,
Bruce Springsteen, il y avait quasiment tous les chanteurs de l'époque, tous les grandes stars de l'époque aux États-Unis qui ont chanté sur
C'était pour la famine en Éthiopie, 84-85, elle a tué plus d'1 million de personnes. We Are The World que Petit Manu va nous traduire.
Oh wow, We Are The World pour le monde.
Non, nous sommes le monde.
Nous sommes le monde et c'était très impressionnant. Comme à l'IPA, effectivement. Ah ouais, grandiose.
Il y a eu un remake de la chanson 25 ans après pour Haïti. Et il y a eu un autre remake en 2020 pour le coronavirus à l'initiative de Lionel Richie.
Ah ouais, non mais ça c'était il est grand.
Et les artistes donc Diana Ross, Bob Dylan, Cyndi Lauper, Tina Turner, Stevie Wonder.
Qui sont associés.
Et USA for Africa, petit Manu, c'est.
Wolf Africa. Il y a même un film de ce film.
Non, l'Amérique. Ça veut dire quoi?
Wolf Africa.
Les USA pour l'Afrique.
Ouais, exactement, voilà. Les USA pour l'Afrique. Voilà. Et il y a même un grand film au cinéma. Peut-être que ça va intéresser Renaud.
Heureusement que je suis là.
Mais.
Allez, la troisième chanson qui est sortie aussi en 85.
Putain, comment ça s'appelle?
Ah oui, c'est connu, on est sur le bout de la langue.
Éthiopie meurt peu à peu.
Exactement, voilà, c'est ça.
Éthiopie en 85, Chanteurs sans frontières.
Ouais, Chanteurs sans frontières,
voilà.
Et même, il y avait Johnny, je crois qu'il chantait.
Toujours pour la famille en Éthiopie en 85. Ouais.
En fait, c'était le We Are The World français, en fait.
Voilà. Ouais.
Donc, c'est-à-dire, il y avait, je crois qu'il y avait Depardieu, il y avait tous les stars françaises, en fait, de la chanson et du cinéma.
Et qui a écrit cette chanson?
Michel
Berger, non?
Pascal Obispo, je crois.
Renaud. Ah oui, c'était Renaud.
Renaud, tout à fait, c'est ça.
Et dans Chanteurs sans frontières, on retrouve des artistes comme Alain Souchon, Francis Cabrel, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc ou encore Laurent Voulzy.
Et qui chante toujours avec Alain Souchon, son frère.
Et la chanson a rapporté, c'était en francs, 10 millions de francs à l'époque à l'association Médecins sans frontières.
Exactement.
Ces années-là, c'était terrible. Enfin, 84-85, c'était terrible.
Ça va,
allez, la quatrième et dernière chanson.
Ah, c'est plus récent, ça.
Yannick Noir.
Oui.
Yannick Noir.
2012.
Non, c'est pas Yannick Noir.
Ferdinand
Ricochet. Ouais, Des Ricochets. 2012.
Avec Jennifer. Il y avait
Nolwenn
Leroy.
Alors, il y avait Angoon, Nolwenn Pokora, il y en avait plein d'autres. C'est une chanson qui est sortie en 2012. C'est le collectif Paris Africa, 60 artistes français et internationaux pour l'UNICEF, pour la lutte contre la crise nutritionnelle et alimentaire, qui frappe 4 pays, notamment la Somalie, l'Éthiopie, le Kenya et Djibouti. et la chanson s'intitule Des Ricochets.
Voilà, ouais. Fallait y penser, et c'est une très bonne aventure.
Et elle a été reprise, cette chanson, en 2015 par les Kids United.
Ah, ah oui, ah, ah, ouais,
ils ont même chanté une chanson de
Les Kids United
de Michel Sardou après. Ils avaient même après chanté un succès de Michel Sardou ensemble avec Michel Sardou lui-même.
Et Thérèse est avec nous dans nos studios pour un live. Thérèse Electron, insaisissable, carrefour social agité, c'est comme ça que tu te définis ?
Exactement.
Alors pourquoi ?
Pourquoi ? Bah parce que je suis une petite picoreuse, j'aime bien aller dans tout plein d'univers différents et picorer, et puis après ça fait aussi partie de mon histoire. Moi je suis donc à moitié chinoise, un quart viette et un quart laotienne d'origine.
D'accord.
Née à Ivry-sur-Seine. Et du coup, toute mon enfance, je l'ai passée avec... Voilà, des gens de toutes les couleurs. Je me suis imprégnée de beaucoup de culture de par mon histoire, de par l'ancien travail de mes parents. Et puis, ensuite, j'ai eu la chance, grâce à mes parents, effectivement, de faire des études, aller en prépa, faire une école de commerce. J'ai bossé dans le marketing. Après, j'ai bossé avec les migrants. Et puis là, je fais de la musique aujourd'hui et plein d'autres choses dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, voilà, je me considère un peu comme un carrefour social, effectivement.
Est-ce que tu as picoré la coupe de Sia ?
C'est vrai, on dirait un peu, ouais.
Eh ben, je vais vous faire un aveu. C'était très drôle parce que quand j'ai fait cette coupe, tous les gens m'ont dit « Ah, mais t'as fait comme Sia !» Alors, les gens me faisaient des clins d'œil.
Ouais, mais sauf que on voit pas son visage aussi.
Mais oui, Sia, on voit pas son visage.
Non, alors que je suppose que tu l'as fait avant.
Je le savais pas.
Ah.
Je l'ai fait après, mais je le savais pas.
Tu es militante aussi ?
militante, ouais. J'ai toujours un peu de mal avec ce mot, même si il dit ce qu'il dit, hein. Mais en fait,
pas engagée, quoi.
Oui, voilà. On va dire que je suis engagée. Je suis pas une militante de terrain. Je suis pas une militante de manif, etc. Parce que je pense que c'est pas mon lieu, le lieu où je m'exprime le mieux. Et en fait, ouais, je milite quand même pas mal. Globalement, la ligne de mire, c'est la liberté.
On ne devrait pas avoir à le faire, mais on a besoin de le faire.
Exactement. Et en fait, ce combat-là, il passe notamment à travers des podcasts, des tables rondes, etc., que je peux faire, des interventions dans des écoles, parce que j'aime beaucoup parler, notamment aux ados, de tout ça. Et ça passe par le prisme de l'universalité et de la lutte féministe inclusive. Je ne déteste pas les hommes, je le dis souvent. Parce que voilà, il y a plusieurs types de luttes dans ce gros groupe. Et puis aussi la lutte antiraciste. Et notamment la lutte antiraciste envers les Asiates de France et de Navarre.
On en avait parlé, je crois, il y a 2 ans, avec ce qui s'était passé en banlieue.
Oui, exactement.
On en reparle récemment à cause du coronavirus.
Exactement.
Donc ça fait quand même récemment 2 fois que ça revient.
C'est ça, sur le devant de la scène. Et quelque part, malheureusement, c'est souvent des incidents comme ça qui font parler de ces combats. On les prend quand même pour pouvoir parler de tout ça, quoi.
Oui, alors que les gens mélangent tout, hein. Moi, quand j'ai été à Tokyo, on m'a dit « Mais c'est comment la Chine ?»
Alors
Bah, c'est pas la capitale de... Non, c'est Pékin. Oui, mais enfin, c'est à côté. Ah non, c'est loin.
Ah,
c'est assez éloigné.
Change d'amis, Didier.
Non, mais vraiment des gens...
Non,
en plus,
mais les préjugés,
pas...
quoi.
C'était pas petit Manu qui me l'a sorti.
Non, j'ai jamais été... Thérèse, moi, j'ai une question posée. Je te trouve vraiment merveilleux, extraordinaire.
Merci.
Parce qu'on a l'impression...
Il est fan.
Mais non, mais justement, d'admiration. T'as pas froid aux yeux, mais on a l'impression que t'as une grande sensibilité.
Merci.
Et ce que je trouve, ce que je ressens, j'ai l'impression que dans le monde musical, je suis sûre que t'as de rencontrer beaucoup de personnes et quelque part, à chaque fois, ça a dû t'apporter quelque chose. Il y a eu un échange, une interactivité. Est-ce que je me trompe ? Je dis ce que je ressens tout simplement.
Alors, tu te trompes pas du tout.
Ah, je préfère demander, mais...
En fait, c'est ce qu'il disait tout à l'heure, Didier, c'est qu'il me demandait ce que j'avais picoré presque. Et en fait, je picore un petit peu partout. C'est-à-dire qu'effectivement, que ce soit dans ma musique ou dans la vie, tout m'inspire.
Mais t'as une audace, c'est ça qui est formidable.
Merci.
Surtout dans Bonne Jamais, hein. Conserve-le, là.
Merci.
T'as des dieux qui te protègent, mais t'as une audace pertinente, mais jolie en tous les cas.
Inch'Allah.
Quand tu parlais de tes engagements juste avant, c'est en fait c'est plus des engagements pacifistes.
C'est-à-dire quand tu dis que tu n'as pas sur terrain ou à des manifestations, enfin si j'ai bien compris, c'est ouais, voilà, c'est plus pacifiste, mais tu montres ton engagement, enfin que t'es là, que t'es engagé contre une cause.
Ouais, exactement, voilà. C'est ça. C'est-à-dire que je ne pousse pas à la violence, même si je la reconnais. C'est-à-dire ouais. que moi, je suis pas contre les gens qui vont en manif. Je pense que heureusement que ces gens sont là. Heureusement qu'il y a des gens pour exprimer la colère avec de la violence, mais moi en tout cas c'est pas ma façon de faire. J'ai essayé un petit peu plus jeune, mais je me suis rendu compte que ça me faisait plus de mal que de bien, et moi en fait ce que j'ai envie de dire c'est lutter pour la liberté, lutter pour l'amour, mais on peut aussi le faire dans le calme en tentant de faire bouger les choses et changer le système
bien
de
sûr.
L'intérieur.
Plus intelligemment, oui.
Et Thérèse, il y a une question qui m'intrigue parce que je te trouve super, mais comment tu as une prise de conscience, c'est-à-dire que tu as vécu quelque chose, tu as des injustices, ou un jour tu te dis, je vais me présenter, je vais avancer, je vais m'exprimer et je vais essayer de changer le monde. Parce qu'on sent que tu as une force. C'est-à-dire, quand tu me fais penser, c'est comme la mer qui vient et qui part, c'est naturel, mais tu fais une beauté. Et quand t'écoutes parler, on est carrément comblé, bouche bée. Comment ça s'est passé?
Je sais plus quoi dire.
Ah non, mais non,
il en kiffe, mais il en kiffe sur toi.
Mais non, mais je suis en admiration parce
on
que.
On oublie
je
vite le début de la question. Hein.
Mais non, mais je veux dire, comment tu l'as vécu? Parce que t'as une force de caractère qui est phénoménale et vraiment bouche bée. Hein. On est tous captés. Hein. Faut le dire, quoi.
Écoute, tu faisais partie du groupe La Vague.
Oui, exactement. Bah, il parlait de mer tout à l'heure.
Ah voilà, non, voilà. Sais,
bon lien.
Parce que j'ai un côté
la transition.
Philosophe. J'ai un côté philosophe, c'est pour ça que j'ai dit ça. Ça
va. Enfin, c'est pas Voltaire non plus. Hein.
Ah non, mais chez moi c'est naturel, mon cher PA, et spontané. Mais en tout cas, j'ai posé une bonne question, vraiment. Je vais pas te. Hein.
Ah c'est non.
Super. N'abandonne pas, en tout cas, Thérèse. On trouvera des bonnes zones. Merci. Elles sont bonnes et canalisées.
La Vague, ça a duré 3 ans. On a sorti un premier EP en 2017, autoproduit. Qui s'appelait Sérotonine, c'est l'hormone du bonheur, c'était un titre ironique. Et puis un second EP en 2019, donc fin d'année dernière, il y a bientôt un an, qui s'appelait Let Me Be, qui parlait aussi de liberté, qui disait laisse-moi être. Et voilà, et puis on a décidé en fait de, comment dire, en fait on n'a rien décidé du tout, c'est le confinement qui a décidé pour nous.
D'accord, hein, c'était récent donc.
Ouais, c'est très récent.
C'est pour ça que tu t'es orientée du coup vers une carrière solo.
C'est ça. En fait, il y a eu plusieurs choses. C'est que la première, c'est que avec John, on s'était posé la question après le lancement de l'EP de faire un album ou non. Et je crois qu'on avait un peu envie tous les deux, chacun d'explorer, chacun de notre côté. Et par ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, moi, je sais pas, j'ai été traversée par énormément de choses. Tu parlais du coronavirus, du racisme envers les Asiatiques tout à l'heure. Ça, c'est un truc qui m'a beaucoup, beaucoup heurtée. Et puis, il y a eu tout plein d'autres choses. Enfin, la privation de nos libertés aujourd'hui, entre essayer de faire la part des choses, entre le respect pour les risques sanitaires, le bien collectif et la privation de liberté individuelle. Il y a beaucoup de lutte intérieure en fait, qui s'est créée chez moi et chez plein d'autres gens, j'imagine. Et du coup, j'ai eu le sentiment d'avoir besoin de dire vraiment ce que j'avais à dire, et de mener les combats vraiment de front, chose que j'avais plus de mal à faire dans La Vague, puisque c'était un duo, et du coup, qu'il fallait parler pour deux. Là, pour le coup, c'est pas tout à fait le cas, même si sur Thérèse, je travaille pas toute seule.
Je reviens sur le coronavirus. Est-ce que toi, tu l'as vécu, le racisme anti-asiatique, ou pas?
Alors, moi, je l'ai ressenti, oui. J'ai ressenti surtout au début de l'épidémie, des espèces de processus ouais. d'évitement, etc.
Les gens te regardaient ouais.
un petit peu bizarrement
en disant oula.
C'est ça, mais à la fois, vous pouvez le voir, enfin les auditeurs le voient pas forcément, mais j'ai un physique quand même particulier qui fait qu'en général on fait pas trop chier dans le métro,
non, mais etc. C'est sûr.
Mais, en revanche, comme je suis sur les réseaux sociaux et que je suis militante depuis un moment, j'ai reçu énormément de témoignages que j'ai retransmis parfois à la radio, un peu à la télé, un peu sur les réseaux sociaux, sur l'Oopsider, etc. Et du coup, je sais de sources sûres qu'il y a énormément de gens qui en ont souffert. Et quelque part, de par ma position, je me suis sentie en droit d'être une certaine porte-parole de
c'est
ces
ce
personnes-là
dire,
qui ne peuvent pas s'exprimer.
En fait tu parlais juste avant donc, du racisme anti-asiatique et du coronavirus. En fait, ouais. Je pense qu'il y a une explication à ça. C'est aussi les médias, quelque part, ouais. Au tout début, quand le corona, on a commencé à en parler. Moi, je me souviens dans les titres, le coronavirus chinois, comme si les Chinois avaient créé, avaient déclenché le corona. Le virus chinois, voilà.
Ouais.
Donc, et c'est là qu'en fait est parti cet amalgame. Et je comprends aussi le ressenti que tu as pu avoir. Ouais.
Et en plus, là où tu as raison sur les amalgames, c'est que, en fait, moi, j'entends plein de choses. J'entends ça, il y a des gens qui sont venus sur mes interventions télé, etc., faire des commentaires sous les vidéos YouTube en disant oui, mais vous et les Ouïghours, j'étais là, mais moi, en fait, je suis né à Paris. Je vis ici, et en fait, j'ai aucun rapport avec les Ouïghours. Enfin, et en fait, les gens amalgament.
Parce que c'est autre chose en plus, les Ouïghours.
Avec les Chinois de Chine. Ils amalgament les Chinois de Chine avec les Chinois qui sont en France et en Occident. Et ils amalgament les Chinois qui sont en France et en Occident avec tous les Asiatiques qui sont nés ici, mais qui n'ont pas de rapport avec ça. Et voilà, et en fait, je crois qu'il y a juste beaucoup, beaucoup, beaucoup de pédagogie à faire. Et c'est ce que je m'efforce de faire auprès des jeunes, surtout.
Et une question, Thérèse, ça ne me regarde pas, mais ta maman, qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'elle t'encourage ou pas? Ou des fois, elle dit, c'est super, ma fille, continue? Ou elle te laisse faire? Parce que comme tous les enfants... parce que, comment ça se passe hein? Les mamans, généralement, se font toujours du souci. Ça se passe comment pour toi?
Avec ma maman, ça se passe bien. Avec mon papa, ça a été plus compliqué. C'est bien. Mais aujourd'hui, ça se passe très, très bien. Au départ, ils avaient peur, comme tous les parents.
Là, j'imagine.
Je m'engage
dans
tout ça. C'est normal. Ouais.
Mais voilà,
normal.
Aujourd'hui, ça se passe super.
Mais c'est abonné sur, je voulais poser la question.
Et Toxic, c'est ton premier titre solo.
Oui,
et
exactement.
Ton dernier titre, donc, que tu vas chanter en live.
As we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears could make me drown deeper. Been your life belt during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. And as we got older and older, the sky became lower and lower. Obviously, it's clearer and clearer. This war will never be over. Sometimes I let you cry on my shoulder, as if your tears could make me drown deeper. Been your life belt during 6 or 7 winters. Sorry, but I ain't your mama. You are more than TOXIC 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 TOXI
Try to forget that we spit on each other. Try to forgive for the dreams that you murder. Try to connect to the good times we had together. Try to protect the things that made me stronger. Hiding from under the storm, riding on my unicorn. Laid on the floor with a pawn, lied to myself, even lied to my mom. Don't wanna waste my time, now let me shout, let me shine. And if you feel frustrated, you can keep on hating me. Keep your pride and satisfied with the one I am since I left behind. All the poison drinking, I'm fine, I don't need you anymore in my life. All the poison drinking, I'm fine, I don't need you anymore in my life. T-O-X-I-C-T-O-T-O. 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 T-O-X-I-C, I'm K-O, K-O. T-O-X-I-C-T-O-T-O. 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 T-O-X-I-C, I'm K-O, K-O. T-O.
Bravo!
Merci.
Thérèse, Toxique.
Pourquoi avoir choisi Toxique comme pour
comme,
nom ton groupe?
Comme nom de titre.
De titre, pardon, ouais, Toxique.
Alors, en fait, cette chanson, elle parle des relations toxiques, en fait.
D'accord.
Elle parle des relations toxiques dans leur ensemble, même si mon histoire personnelle, entre guillemets, ça part d'une vraie relation. Mmh. Après, ça a été romancé, hein, c'est une chanson. Et au final, elle parle surtout de la relation toxique qu'on peut avoir avec soi-même, qui est souvent la plus terrible. Et en fait, elle parle de ça, elle parle de la tendresse qu'on peut avoir par rapport à ce sentiment-là, à la nostalgie qu'on peut avoir avec la relation qu'on a avec notre ancien soi, et surtout, ça parle d'émancipation et de se dire, bah voilà, en fait, j'ai la relation que j'ai avec moi-même. Je m'accepte comme je suis et puis j'essaie de m'affranchir de ces choses-là.
Merci Thérèse, tu restes avec nous.
Oui.
Alors précisé. C'est l'heure de souhaiter les anniversaires du jour.
Happy birthday to you.
Alors attention, on y va. Aujourd'hui, on souhaite l'anniversaire de Lindsay Satori, 27 ans, Manuel Jean Le Gourlet, Usaifi Mohamed, Jungul, 40 ans, Max Spiritus, 28 ans, Christian Opitz, 54 ans, Rapide Lacet Dijon, 49 ans, Kitika, 19 ans, Marie Gaddafi, 41 ans, Jacques Boutier, Marwen Abdennebi, Astrid Jolie, 32 ans, bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire. Alors aujourd'hui c'est la Saint-Ghislaine, bonne fête aux Ghislaines.
Bonne fête aux Carole.
Pourquoi pas
Pourquoi
avec quel rapport aux Carole?
Non mais c'est petit Manu, des fois il fait Saint-Ghislaine, bonne fête aux Carole.
Ah non, j'ai dit Saint-Ghislaine.
Demain c'est vous nous écoutez, donc le dimanche c'est l'anniversaire d'Adrien Nasselli, 31 ans, de Carole Rouzet, 66 ans, de Sandrine Félicès, 52 ans, de Philippe Lourenço, 47 ans, Frédéric Versolato, 62 ans, Louis Langlois, 71 ans, Laura Pons, 30 ans, Matt Springfield, 41 ans, Lay Bach et Jérôme Lavacurie, 46 ans. Bon anniversaire à toutes et tous.
Bon anniversaire.
Et si on partait en politique, Ronan? L'heure est grave.
L'heure est grave, quand même, voilà. Mes chers compatriotes.
Voilà, important.
L'heure est tellement grave que petit Manu m'a piqué mes chiffres.
Ah non, moi, je t'ai rien piqué du tout.
Tu vas faire mieux, Ronan.
Mais c'est... non, je t'ai rien piqué, je me permettrai pas, cher Ronan. C'est pas mon genre.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, mais c'est vrai. J'étais pas déparé.
Comme le disait petit Manu en début d'émission, environ 690 millions de personnes, soit 8,9% de la population mondiale, souffrent de la faim dans le monde. Et pour l'information, pour PA, FAO, ça veut dire l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, connue sous les sigles ONUAA, ou plus communément FAO, soit en anglais Food Agriculture Organization of the United Nations.
C'est
en anglais, ouais.
C'est ce que j'avais dit, quoi. Mais tu veux
pas vraiment, non. Exactement. Non.
Bien sûr. Chacun sa façon, j'avais dit à peu près la même chose.
Selon ce même organisme, 25 000 personnes meurent de la faim tous les jours, dont plus de 10 000 enfants. Ce même rapport, donc, qui est sorti en septembre dernier, prévoit que la récession mondiale due au coronavirus risque de pousser vers la faim entre 83 et 132 millions de personnes supplémentaires. Parce qu'il y a aussi une crise des criquets en Afrique qui ravage de l'agriculture. Et il y a plus de 2 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas régulièrement accès à des aliments nutritifs en qualité et en quantité suffisante. Mais alors, la question, c'est pourquoi on meurt de faim en 2020 dans le monde? Moi qui vais essayer de faire des blagues sur un sujet, encore une fois, très facile.
Et d'ailleurs, juste, normalement, ça devait être un des objectifs de cette année d'éradiquer la faim.
Ah bon?
C'est pour 2030.
Ouais. Et au départ, c'était en 2020.
Alors, pourquoi on meurt encore de la faim en 2020 dans le monde? En premier lieu, la production a certes beaucoup augmenté au cours des deux derniers siècles, mais avec l'utilisation de nouvelles technologies ou d'engrais. Mais la demande a, elle aussi, beaucoup progressé. Les agriculteurs se sont davantage tournés vers des produits moins alimentaires ou non alimentaires. On peut par exemple citer le soja ou ce genre de choses. En conséquence, les prix des céréales, par exemple, ont beaucoup augmenté à partir des années 2004 à 2005. Ainsi, les pays économiquement moins développés ont eu plus de mal à nourrir leurs habitants. Deuxième problème, la surexploitation et l'augmentation de l'urbanisation sur des terres agricoles.
Excuse-moi, Ronan, mais en fait, tu parles de Corona et en fait, ton fond sonore, c'est Corona.
Ah ouais,
ouais. C'est marrant.
T'as vu
Écoute, tiens, elle le dit là, écoute.
Oh yeah. Oui, effectivement, je reconnais. Très bien fait, bravo. Là, j'en reviens pas.
DJ qui apporte un peu de...
On était sur une chronique.
Moi, je vais faire ma chronique en mode boîte de nuit. Alors, le deuxième problème de la faim dans le monde, c'est la surexploitation, l'augmentation de l'urbanisation sur les terres agricoles. Oui, parce que les petits agriculteurs, faut le savoir, ça représente 2 milliards de personnes, environ un tiers de la population mondiale. On estime que 85% des exploitations dans le monde font moins de 2 hectares. Et parce que, donc, du coup, avec l'augmentation de l'urbanisation, on les pousse plus loin sur les terres moins fertiles. Et avec l'utilisation excessive des engrais, des produits chimiques, a fait baisser tout simplement la fertilité des terres. Et enfin, il faut rappeler que les petits agriculteurs ne bénéficient pas forcément de la hausse des prix qui sont aussi pris par des intermédiaires, des exploitants, des commerçants, des marchands, les supermarchés, ce genre de choses. Ils sont aussi incapables d'augmenter leur production faute d'accès au financement et ne peuvent donc pas acheter plus de semences, d'engrais ou d'énergie. Parce que par exemple, en France, on a une énergie qui est très bon marché avec le nucléaire, mais c'est pas le cas en Afrique ou dans les pays asiatiques.
Et on peut dire aussi, il y a les produits chimiques aussi, à la campagne aussi, qui jouent aussi. Hein.
Eh oui, t'inquiète pas, on va y venir, De plus, il y a des problèmes d'infrastructure pour stocker les éléments et bien les conserver. Pour éviter d'en perdre et des routes pour les acheminer denrées, il y a beaucoup de problèmes de routes de stockage et de conditionnement des aliments. Et il ne faut pas oublier que la faim entraîne des carences alimentaires, des régimes peu adaptés à la vie humaine et donc à des maladies. Il faut savoir en plus que plus de 80% de la population mondiale aujourd'hui n'a pas accès à un système de protection sociale. C'est-à-dire quand vous êtes malade du fait de vos carences alimentaires, vous êtes un peu dans la mouise. Et enfin, je terminerai sur un point capital abordé dans le rapport et peu exprimé par les médias, qui dit que la taxation des produits avec des entraves au libre-échange ou l'imposition pour faire de la production nationale ou autosuffisante, comme le riz ou le blé, quand des pays sous-développés mettent par exemple des barrières à l'importation de ces denrées, notamment parce que les producteurs du Nord, genre typiquement la France, produisent trop de blé ou trop de riz sur ces denrées, et ben en fait ça provoque des effets de contrebalancement, parce que ça veut dire que ces pays sont en surcapacité de produire ces denrées, sauf qu'elles sont pas adaptées pour les bons régimes alimentaires, parce qu'en retour du coup il y a l'imposition et des taxes sur des fruits et des légumes qui sont importés, qui sont pas forcément produits dans le pays en quantité suffisante, et du coup ça entraîne des carences. Et voilà, et c'est exactement le point qui sera abordé dans la chronique cinéma juste après.
Et je peux même dire quelque chose, Renaud, à l'époque où j'étais vivant, comment il s'appelle, Daniel Balavoine aussi, il avait été en Afrique avec France Gall aussi.
Avec France Gall ?
Oui, ils avaient été en Afrique pour l'eau.
Attends, je crois que tu confonds avec Thierry Sabine.
Oui, tout à fait, Thierry Sabine, France
Gall. C'était pas France Gall.
Non, mais il avait été, Daniel Balavoine.
Le Matt Horner.
Non, pas du tout. Ils avaient été en Afrique pour s'occuper de l'eau parce qu'ils étaient sensibles aussi.
Oui, en fait, à la base,
Michel Berger aussi.
Il était parti au Paris-Dakar pour installer, enfin pour faire une mission militaire pour installer une pompe à eau.
Exactement.
Des pompes à eau pour capter de l'eau potable.
Exactement, parce qu'il y avait des problèmes d'eau et comme ils étaient sensibles, ils s'étaient déplacés pour amener de l'eau et essayer d'aider un petit peu les gens. Effectivement.
Il teste. Ouh là là, c'est dur à dire. Appli, objet high-tech.
À quoi elle sert à rien alors?
Il y a une application justement pour ça qui existe.
Moi j'ai téléchargé Yuka, je voudrais juste faire un test sur Petit Manu.
Ah bah alors c'est là, rouge. Très mauvais hein.
Non. C'est rouge.
Il teste. Bon alors j'ai pas testé pour le coup. Chaque année, il y a une association, la CCFD, dont le Comité catholique pour la faim et le développement Terre solidaire, organise partout en France opération Bouge ta planète, qui a pour but de lutter contre la faim dans le monde. Alors,
je connais.
Tu connais?
Ah, pas moi, mais c'est ma grand-mère. Elle en faisait beaucoup.
D'accord.
Et c'est vrai que c'est quelque chose de religieux. Et ça m'appelle des souvenirs.
Oui, c'est pour ça, c'est catholique.
Tout à fait. Reprends, mon cher.
Amen.
Je sens que cette chronique va partir en live.
Ah non, mais ça va.
Elle va partir en cacahuète. Alors, ce fut cas notamment à Tonnins. Et pas à Tonon, à Tonnins, qui organise tous les ans depuis plus de 30 ans une course solidaire pour récupérer des dons, d'où le fait de courir pour lutter contre la faim. Et cette course s'est déroulée le 20 septembre dernier à Ayet, dans le département 09. Donc c'est organisé aussi un peu partout en France. Mais là, donc c'était le cas notamment à Tonnins, puisqu'il y a ce fameux marathon qui a été organisé.
Alors, international.
Non. International, c'est dans le monde. Réfléchis un peu. Alors, selon le responsable du comité, c'est une activité sportive, mais elle est faite aussi par la force des choses et par conception une course contre la faim, ou plutôt contre ses causes, qu'a évoqué notamment Renan il y a quelques instants. En effet, le Covid-19, bon, ça rejoint un petit peu ce que tu as dit tout à l'heure. Le Covid-19 ne doit pas nous faire oublier qu'il existe aussi un autre virus dans le monde, celui de la faim, puisque... Et donc la pandémie de connard virus. Manu, sors de ce corps.
C'est pas moi, je t'écoutais, j'ai rien dit. Une fois n'est pas coutume.
Oui, stop. La pandémie de coronavirus qui ne fait qu'aggraver la pandémie de malnutrition et qui est oh là là. Manu, tu peux sortir du studio, s'il te plaît.
Ah non, mais j'ai rien fait, je t'écoutais, c'est pas moi.
Et qui est en soi plus meurtrière. Alors, le départ des courses était prévu à 9h pour le 7 km hors challenge et un 10 km format court du challenge. Et puis un autre à 8h30 pour le 20 km format long du challenge. Donc là pour la course officielle, avec un ravitaillement prévu au départ et à l'arrivée, ainsi que tous les 5 km selon les parcours. Deux rondos étaient prévus au programme, ainsi qu'un repas d'après-course. Forcément, il faut bien restaurer tout ça. Et donc, si vous voulez vous inscrire, eh bien, rendez-vous l'année prochaine. Voilà.
Mais je m'en suis sorti. Merci, PA. Thérèse est toujours avec nous dans nos studios. Thérèse, tu t'intéresses aussi à la mode?
Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. En fait... Je m'intéresse à la mode. J'ai bossé chez Kenzo pendant 5 ans et demi après mes études. Puis après, je suis partie de là parce que j'avais du mal avec tout le monde LVMH et de me dire que je me levais tous les matins pour donner des sous à Bernard Arnault. Désolé, Bernard.
Et, Bernard, si tu nous écoutes.
On t'embrasse.
Nanar.
Et en fait, il s'avère que la mode m'a rattrapée. Il y a quelques années, il y a 2 ans maintenant, bientôt, j'étais sur le festival du MAMA. Et j'étais devant le concert de Léonie Pernet et en fait j'ai croisé une jeune femme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Songe, c'est une artiste. Et je la connaissais pas à l'époque. Je suis allée la voir pour lui dire que son projet était super. Et quelques jours plus tard, elle m'a retrouvée sur Instagram et elle m'a dit « Je sais pas te dire pourquoi ni comment, mais j'ai adoré ton flow. J'ai un shooting dans 2 semaines pour la sortie de mon album. Est-ce que tu veux bien faire mon stylisme ?»
Et là,
ouais, je crois que c'était ça. Et en fait, à l'époque, je faisais pas du tout ça comme métier. Et elle m'a, et en fait, je l'ai rappelé en lui disant, bah c'est pas mon métier, mais je veux bien essayer. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé. Et depuis, grâce à elle, elle m'a mis le pied à l'étrier. Et grâce à elle, c'est mon activité aujourd'hui rémunératrice. Et je travaille, j'accompagne beaucoup de musiciens, notamment, pas uniquement, mais pas mal de musiciens et musiciennes, à travailler sur leur identité visuelle, en fait, à se poser des questions, de savoir qui ils sont vraiment, pour pouvoir les aider à traduire leur musique en vêtements et en look.
Voilà. D'accord, donc, intéressant.
C'est assez chouette.
Donc en fait, à la fois tu fais de la musique et à la fois tu fais du stylisme, c'est ça?
C'est ça.
Mais j'ai l'impression que c'est encore mieux, c'est un coaching que tu fais, un mélange est vraiment extraordinaire. Alors j'avoue, ne change pas.
Ton EP va bientôt sortir?
Oui, il sort début d'année 2021 du coup. Bon, le timing est un petit peu, enfin vous savez ce qui se passe en ce moment, on ne sait jamais trop, voilà. C'est un peu mouvant, mais ce sera premier trimestre 2021, ouais.
Et tu as d'autres projets?
Eh bien oui, j'ai d'autres projets, je suis un peu une pile, je m'arrête, je dors pas beaucoup. Enfin j'essaie quand même de dormir, mais c'est vrai que j'aime bien avoir la tête occupée et faire. Outre ce projet Thérèse que je monte avec Adam Carpels, qui est donc le producteur, celui qui fait la musique, on co-compose, j'ai effectivement des projets, là je vais aller dans des écoles en novembre pour aller justement faire de l'information, de la transmission, de tout. J'ai pas un message en particulier à faire passer à ces étudiants, outre le fait de se poser des questions sur qui ils sont, et surtout de ne pas prendre les infos qu'on leur donne comme quelque chose d'acquis. Voilà, pour qu'ils puissent surtout devenir ce qu'ils ont envie de devenir et d'essayer de casser justement tous les carcans qu'il peut y avoir. À côté de ça...
Tu fais beaucoup de choses.
Ouais, je fais de la danse aussi. Là, j'essaie d'intégrer de la danse au live. Donc voilà, il va y avoir des concerts bientôt. Et en fait, moi, j'adore danser. Je suis pas une danseuse professionnelle, mais je trouve que l'expression du corps est quelque chose aujourd'hui qu'on néglige beaucoup, alors que le corps a beaucoup de choses à dire. Et du coup, voilà, j'ai aussi envie de libérer la parole quelque part physique et corporelle.
Tu danses dans ton clip ?
Dans ce clip-là qui va sortir le 30, je ne danse pas, non, je suis assez
toxique,
statique.
Donc,
exactement.
Qu'on peut voir sur le podcast Big Bang.
Station.
Ils sont là. Hein.
Alors, où est-ce qu'on peut te voir en vrai ? Est-ce que tu as déjà des dates ou pas ?
Alors, oui, j'ai commencé à avoir des dates à Montreuil. Et là, la prochaine date, c'est le 10 octobre pour le Festival des Vendanges de Montmartre. Donc, pour les amoureux du vin et de musique... vous pouvez me retrouver sur la scène donc à 20h le 10 octobre. Voilà. Ça devait se faire au hasard ludique, mais le coronavirus nous empêche de faire tout ce genre de choses. Et du coup, vous pourrez retrouver l'adresse sur l'event Facebook. Ce sera dans un square pas loin du métro Max Dormois. Et voilà, il y aura plein d'autres artistes super cette semaine-là, parce que c'est un festival sur plusieurs jours. Et donc, je vous invite à venir. C'est gratuit. Venez découvrir le set.
Et on va donner site et réseaux sociaux pour terminer.
Oui, alors mes réseaux sociaux, donc sur Facebook, c'est Thérèse, tout simplement. Donc si vous ne me trouvez pas ou que vous tombez sur des religieuses, vous pouvez taper T comme Thérèse.
Ou sur Thérèse.com.
Exactement. Donc, vous pouvez taper T comme Thérèse, tout collé, sans accent. Et puis sur Instagram, c'est pareil. Donc c'est T comme Thérèse. Voilà. Et puis sur Twitter, vous me trouverez aussi sur Sayara Thérèse, c'est mon nom de famille.
Bah, merci Thérèse.
Merci à vous tous.
Et c'est l'heure de parler cinéma avec Ronan.
Un petit ciné ?
Vous voulez un whisky ?
Ou juste un doigt ?
Vous voulez pas un whisky d'abord ?
Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse !
Oui, mais c'est un ami.
Ah bah ça va alors !
Alors aujourd'hui, je décide de vous parler d'un film qui traite de la lutte contre la faim et un petit bonus si on a encore un peu de temps. Le premier dont j'aimerais vous parler s'intitule « Les moissons du futur » de Marie-Monique Robin, réalisé en 2012. C'est sur l'agroécologie et sur les autres façons de produire, de cultiver des céréales, des fruits ou des légumes sans passer par l'agriculture intensive et bien sûr sans pesticides. Le film commence avec la présence de la journaliste sur un plateau de France 2 où se trouve le ministre actuel de l'économie, Bruno Le Maire, qui dit à l'époque en 2011, parce qu'il n'était pas ministre à l'époque.
Mais non, c'est mieux ça.
Eh oui, ça ne nous rajeunit pas. Le renouvellement de la classe politique. Le monde d'après, tout ça, il est toujours. Ne faisons pas croire aux Français qu'on peut produire sans pesticides, car si les agriculteurs produisaient sans pesticides, ils ne produiraient pas assez de produites.
De produites.
De produites, merci.
De ouais, produites.
Voilà,
de produits.
Voilà.
Ronan, t'as peut-être fumé trop de produites, toi, tout à l'heure.
Et là, t'as fait une manu.
Ah non, je me sens pas concerné, moi.
Et voilà comment la journaliste a entrepris son tour du monde des techniques agricoles qui permettent de se passer des pesticides, de faire gagner de la fertilité aux terres sans utiliser de pesticides, d'engrais, de produits technologiques et chimiques. Durant ce documentaire, elle se rend au Mexique où elle va voir un petit producteur qui cultive depuis plusieurs décennies le maïs avec des haricots et la citrouille sur la même parcelle de terrain. Car le maïs est le leader de la parcelle, le haricot fixe l'azote indispensable pour la production et les feuilles de citrouille permettent de faire de l'ombre au sol pour conserver l'eau. Vous avez rien compris, vous en faites pas, c'est normal, c'est de l'agriculture. On aime ça, juste dans notre assiette, mais c'est vachement intéressant, c'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. Ensuite, elle va en Afrique où elle suit un agriculteur qui produit du maïs grâce à une reforestation réfléchie autour de la parcelle avec un arbre qui pousse vite et qui permet de nourrir la terre. Ensuite, elle va en Afrique où elle suit un agriculteur qui produit du maïs grâce à une reforestation réfléchie autour de la parcelle avec un arbre qui pousse vite et qui lui permet de nourrir la terre. L'agriculteur qu'elle filme assure qu'il utilisait des engrais et des pesticides avant et que cela lui coûtait tellement cher qu'il ne pouvait pas nourrir sa famille. Alors qu'aujourd'hui, il a des rendements qui sont bien supérieurs avec cette agriculture multiple. Okay. Et qui peut même en vendre.
Et du coup, il est passé aux engrais naturels, si j'ai bien compris.
En fait, si tu veux, je veux pas te dévoiler tout le film parce que c'est un peu long et technique, mais c'est parce que c'est un documentaire. Faut bien l'avouer, c'est un petit peu long. Mais si tu veux, le principe de l'agriculteur du maïs au Mexique, c'est il fait plusieurs plantes sur la même parcelle. Alors qu'aujourd'hui, tu fais que du blé. Ouais. Lui, il fait maïs, haricots, citrouilles sur la même parcelle. L'agriculteur africain, il fait son maïs, mais autour, il fait des arbres. Quand l'arbre a assez grandi, il le coupe et il nourrit la terre comme ça, au lieu de mettre de l'engrais ou des pesticides. Et ça vient d'une technique de développement en fait qui est microbiologique, mais je vais en parler.
Ouais, effectivement, après. Là c'est très technique. Hein. Ouais, très technique.
Faut s'y connaître, j'ai l'impression.
Ensuite, elle va suivre un agriculteur japonais qui va utiliser de l'agriculture bio pour cultiver une centaine de légumes sur une toute petite parcelle de moins de 2 hectares qui est autosuffisant puisqu'il produit lui-même son propre carburant et qu'il arrive à lui-même nourrir ses animaux avec ses légumes et avec les restes qu'il fait. La seule chose qu'il achète, c'est du sel. Enfin, parler à un agriculteur, c'est juste normalement pas possible. Elle croisera aussi la route d'un agriculteur bio allemand, d'un agriculteur africain qui se bat pour la taxation des produits importés et un agriculteur américain qui utilise des pesticides. En plaçant de nombreux experts et des associations différentes aux quatre coins du globe, dont Olivier de Schutter, rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation, qui est un peu la star du film, rapporteur du droit à l'alimentation des Nations Unies, qui est aujourd'hui responsable aujourd'hui au sein de l'Union Européenne d'une nouvelle politique de l'alimentation. Ce documentaire fait vraiment ouvrir les yeux sur ce qu'il est possible de faire par tout le monde dans le domaine agricole. Moi, je ne servais rien du tout, ce genre de documentaire, ça ne me passionne pas des masses, mais justement, il est vachement intéressant pour
en
ça.
En gros, c'est-à-dire que tout ce qu'on mange et tout ce qui sort de la terre, c'est chimique en fait, quelque part, ce qu'on mange.
En fait, si tu veux, c'est chimique. Le principe, c'est que le point de vue du documentaire, il t'explique qu'on ne peut pas faire sans les pesticides. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe sur la betterave actuellement, c'est qu'on va dire qu'on ne va pas faire sans pesticides, on ne peut pas faire autrement. Or, ce que tu veux, ce documentaire, il prouve qu'on peut faire sans pesticides et autrement, avec des techniques de rendement plus saines pour la terre.
Ce que je veux dire, de toute façon, Roland, par rapport à ta chronique, c'est super intéressant.
Je trouve que
malheureusement, à chaque fois qu'on essaie de détruire la nature, et ben, on prend toujours le dessus.
Je serais même la conclusion de ce film. Et ce film, si tu devais en retenir.
Non, il t'a bouffé ton intro et ta conclusion.
Tu te rends compte?
Ouais, mais non, j'avoue.
Non, j'ai dit
un piqueur.
J'ai dit un petit
peu.
Plagieur.
Il ne sait pas de quoi il parle, mais c'est très très bien parce que c'est exactement ça. Merci petit Manu pour cette transition. Car si tu dois retenir une leçon à ce film, c'est qu'elle n'a pas une seule façon de cultiver la terre. Il y en a des différentes et des nouvelles aujourd'hui. Le temps de la monoculture des parcelles arrivera sans doute à son terme, car si le 20e siècle fut le siècle de la chimie, le 21e siècle sera celui de la microbiologie et l'étude des micro-environnements qui sont interdépendants dans l'agriculture. Donc, entre guillemets, il faut écouter Mère Nature, les mauvaises herbes et les insectes. Voilà. Tout cela n'est pas revenir au Moyen-Âge de l'agriculture, mais bien le fait de faire des études sur les phénomènes et ce qui nous permettra de mieux faire de l'agriculture demain.
Je pense qu'on va y revenir un jour à ce que tu viens de dire. Là.
Ah, c'est très intéressant.
Ancestral, là, les méthodes ancestrales comme ça. Ouais,
j'aurais même pas le temps de parler mon petit film bonus. J'ai le temps. Et enfin, quand il nous reste pas assez de temps pour en parler dans une émission de divertissement sur Big Bang Station, et comme je voulais parler d'un film sur la faim, et que je peux pas vous en parler parce que c'est un film culte, quasiment légendaire, dont la réputation dépasse sa qualité, qui est néanmoins bonne. Et oui, parce que c'est un film qui parle de cannibalisme. Ça s'appelle Cannibal Holocaust. C'est un film d'horreur italien sorti en 1980, réalisé par Ruggero Deodato. Je vous ne dirai pas, donc du coup, puisque je peux pas en parler, je vous ne dirai pas que c'est un film italien sorti du grand cinéma italien des années 70. Comme il y a eu le Nouvelle Vague en France, il y a eu le grand cinéma des années 70. Donc on citera pas Dario Argento et ses superbes films comme Suspiria et Phenomena.
Cannibal Nectar.
Non, c'est différent. Non,
Hector, c'est américain.
C'est,
non.
C'est américain, ça.
Les films des années 70 italiens, par exemple, t'as le Sergio Leone avec
Sergio Leone,
avec Clint Eastwood, par exemple.
Western Spaghetti.
C'est vrai.
Donc, je ne peux pas vous dire que c'est un film dérangeant et complètement polémique, car si Cannibal Holocaust est un film en deux parties, une première partie qui nous narre l'histoire d'hommes partis dans la forêt à la recherche de reporters disparus, la seconde partie met en mise en scène à la façon d'un found footage, parce qu'en fait, la première partie.
Found footage.
Alors, est-ce que un found footage, en fait, c'est une première partie où des
alimentation.
Oui. Found footage. Non, found c'est trouvé et footage
found,
c'est
found footage. Il a pas, il a pas fait l'accent found footage.
Prononce bien Roland parce qu'on comprend found.
C'est la façon d'un film trouvé, c'est comme le projet Blair Witch, Rec ou Paranormal Activity. Donc ça, en fait, c'est des reporters qui vont chercher d'autres reporters qui sont partis dans une jungle en Amazonie et ils retrouvent leur film et en fait, il est complètement horrible ce film parce que c'est tourné en très 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 réaliste à tel point qu'il y a des animaux, des vrais animaux qui sont torturés.
Il y a
des tortues qui sont éventrées, il y a du cannibalisme, d'autres exactions. Donc c'est un film hyper réaliste, absolument génial, qui a absolument pas vieilli parce que j'en ai regardé un bout pour cette chronique. Donc je vous invite à le voir, même si
quand tu vois les chevaux qui sont massacrés,
mutilés,
c'est un film, c'est une fiction.
Mais
là c'est pas la fiction.
Faut pas être sensible.
Alors quand c'est le parrain et qu'il dégomme je sais pas combien de personnes, ça va, mais
faut pas être sensible.
Quand c'est les animaux.
Moi je suis pour les animaux, il faut pas faire de mal aux animaux.
Moi dans un film, ça me fait plus mal au cœur de voir des animaux souffrir que des humains.
Et alors juste pour reprendre sur ce film là, juste une dernière note parce que je le défends, mais en vrai, il a vraiment tué des animaux pour faire ce film là et il a été condamné pour ça parce qu'il a tué et il a tué une espèce de tortue Galapagos.
Mais
il est même passé en jugement pour meurtre parce qu'il croyait qu'ils avaient vraiment tué les acteurs.
Ouais, mais heureusement qu'il a été jugé quand même parce que là
il a dû avoir un bon avocat parce que
il avait pas tué les gens.
Heureusement.
Alors là,
allez le voir.
Il manquerait plus que ça.
Bon, t'as plombé l'ambiance. On part un petit peu en musique là parce que.
Merci, au revoir.
Et Big Bang, c'est déjà fini.
Merci à Thérèse d'être venue.
Merci à vous tous.
Mais on se retrouve la semaine prochaine sur IDFM le samedi à 20h. Si vous avez loupé Big Bang, c'est pas grave. Le dimanche, vous avez soit Radio MS à 21h, soit Les Muses de Paris à 20h, soit à 16h, toujours le dimanche, sur Precious Radio. Le mardi à 22h sur Fréquence Zik. Le mardi à 20h sur NG Radio. Le jeudi sur Radio Vintage à 16h et partout et tout le temps ailleurs sur Big Bang
Station.
Salut à toutes et à tous.
Salut.
Ciao.